blanche.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
On repart pour la seconde partie du 40 nuances de Georges Lotigier. Georges, du coup, tu es toujours avec nous, ça tombe bien. Bonjour à nouveau.
Bonjour Thomas.
Et je retrouve mon compère Olivier Mathieu.
Salut les amis.
Avec Olivier. Nous pour découvrir l'homme derrière Veid, entreprise du Next 40. On a le plaisir d'avoir presque un super co-host exceptionnel pour l'occasion, à savoir ton fidèle associé. J'ai nommé Adrien Gendre. Salut Adrien.
Bonjour, salut.
Donc tu restes avec nous, on repérera sur tes sourires en coin parce qu'on t'a en vidéo et à distance si Georges bullshit un peu ou pas. Et puis je crois que t'as prévu quelques questions pour notre invité du jour.
Oui.
Eh ben on démarre tout de suite.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Pour démarrer sur toi, Georges, quand on était dans le couloir avant de rentrer dans les studios, tu m'as dit j'étais pas du tout parti pour aller dans la cyber. Moi, j'avais envie d'être véto.
Oui. Oui, je voulais être vétérinaire. Bon, j'ai toujours bien aimé les animaux, la nature. J'avais envie d'être vétérinaire en Afrique après avoir vu Daktari quand j'étais jeune.
Une série mythique, voilà. que Thomas n'a pas vu.
Oui, non, alors là, vous devriez voir mes yeux, mais...
Non, non, on est plus âgé que lui, on peut comprendre, mais...
Puis j'ai rien fichu en terminale, c'est l'année où j'ai connu ma femme, d'ailleurs. On s'est connus très jeunes. Et du coup, j'ai pas travaillé du tout, j'ai jamais été admis à l'école de préparation. Et puis, je me suis inscrit là où j'ai pu, à l'université, et j'ai fait des maths, physique, chimie, un doc de maths, physique, chimie, voilà.
Et même là, à ce moment-là, la cyber, déjà, je ne sais même pas si on en parle vraiment. À l'époque, la sécurité, oui, mais...
Oui, mais voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était de l'audio, de la musique, du coup, puisque je fais un peu de musique. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire un doctorat en acoustique et développer des systèmes de table de mixage, amplification numérique, ce qui n'existait pas ou peu à l'époque.
Donc, tu es allé jusqu'au doctorat. Tu as fait un doctorat?
Ben non, j'ai pas fait de doctorat, j'ai fait une école d'ingénieur.
Ah d'accord.
Et je voulais faire un doctorat.
Donc parcours universitaire et ensuite enchaînement avec une école d'ingénieur.
Voilà, école d'ingénieur universitaire.
D'accord.
Ça s'appelait l'EDI, l'école universitaire d'ingénieurs de Lille.
Et qui est donc dans le domaine télécom, informatique.
Voilà, c'était... moi j'ai choisi électronique.
Électronique.
Électronique orientée télécom. Et ben, j'ai travaillé un peu dans les labos de recherche. Et j'ai trouvé que c'était trop lent. Et voilà, et des docteurs ingénieurs m'ont dit, de toute façon, tu vas passer 2 ans à faire quelque chose d'assez lent et tu n'auras pas forcément un boulot plus intéressant. Donc finalement, sorti sans doctorat.
Du coup, si je fais une petite rétrospective, d'une certaine manière, tu voulais d'abord être vétérinaire, ensuite plutôt dans la musique.
Ouais.
Finalement, tu fais ingénieur télécom. Et alors parfois, parce qu'on pose la question, est-ce que naturellement tu voulais être entrepreneur, qui est encore une autre composante, ce qui veut dire que probablement tu ne rêvais pas du tout d'être entrepreneur parce que tu avais déjà tellement d'autres rêves. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais pouvoir créer une entreprise ou racheter une entreprise?
De toute façon, oui, en plus, tout le monde me disait que je ne pourrais jamais être entrepreneur parce que j'étais un peu trop dans la lune.
D'accord. Ah oui, c'est le côté un peu rêveur, créatif.
J'ai été un peu rêveur, oui. D'accord. Un peu créatif. Donc, et puis un peu dans mon coin, pas toujours à travailler en équipe, enfin voilà,
ouais.
mal assuré. Un peu timide, donc pas du tout dominant. Je me voyais pas du tout chef d'entreprise.
Et alors, parce que maintenant que tu l'es, finalement, est-ce qu'il faut être dominant et, et tout ce que tu n'étais pas pour être entrepreneur?
Non, je dirais surtout pas. Non, je pense que finalement, pourquoi je suis devenu entrepreneur? C'est simple, j'ai travaillé d'abord dans une entreprise qui m'a confié tout de suite des responsabilités importantes de chef de projet. Mais surtout, j'avais finalement beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et besoin de faire ce que je voyais. Je voyais qu'on pouvait améliorer les choses comme ci ou comme ça. Et dans une entreprise, c'est pas toujours facile de se faire entendre, surtout quand on est jeune ingénieur. Donc très vite, j'ai eu envie de créer ma boîte. Pour faire ce que je veux, finalement.
J'avais envie de faire plutôt que de demander la permission de faire, quoi.
Ben voilà. Ouais. C'est ça, oui.
Donc c'est une forme d'indépendance, enfin une forme d'autonomie, de prise d'initiative,
etc. Totalement, c'est ce qui me caractérise le plus.
Mais alors du coup, sur l'aspect personnalité, où tu dis que tu peux être plus en retrait, etc., je pense que de toute façon, il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Il n'y a pas un entrepreneur, il y en a peut-être qui sont certains qui sont effectivement très dominants, très en train de donner des ordres. Et c'est peut-être pas ceux qui durent le plus longtemps, parce qu'il faut donner aussi envie de travailler avec soi, de travailler en équipe. Et est-ce que toi, tu as appris à travailler en équipe, du coup ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'était naturel ?
Oui, finalement, oui. C'est-à-dire que l'énorme avantage quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on choisit les gens avec qui on travaille. Et moi, si j'étais mal assuré, c'est simplement que je n'étais pas sûr d'avoir raison. Je pensais à certaines choses, mais je n'étais pas sûr d'avoir raison parce que voilà, les autres sont plus expérimentés que moi. Et donc, j'ai démarré avec une équipe de personnes que je connaissais, qui étaient salariées dans mon équipe.
Tu parles de la première boîte, là.
La première boîte, oui.
Netask.
Ouais. Non, c'était encore avant ça. C'était une boîte qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle XR maintenant, EXER. Première boîte que j'ai créée avec des gars qui travaillaient dans mon équipe, dans ma première entreprise où je suis resté 3 ans.
Donc c'est des gars que tu as débauchés du coup ?
On a créé ensemble, ils étaient associés.
D'accord.
Pas au même niveau, j'étais majoritaire, mais voilà, enfin, ils se sont joints à moi tout de suite. Et on se comprenait, voilà, on était... En fait, finalement, ce qui m'a mis en confiance, c'est la confiance des autres. Voilà, et c'est comme ça, du coup, qu'on travaille, que je travaille avec mes collaborateurs. La confiance, c'est le numéro un. On a le droit de tout se dire, il n'y a pas de honte à sortir une idée saugrenue. Et c'est comme ça qu'on est créatif. Et ça vient du fait que je n'osais pas m'exprimer sur les idées que j'avais avant.
Adrien, sur ces sujets du rôle, du management, finalement du regard de Georges sur sa mission d'entrepreneur, toi qui le côtoies de près, je crois en plus que tu as un questionnement sur ce...
En effet, donc, moi, j'ai rencontré Georges beaucoup plus tard, du coup, dans d'autres saisons de sa vie. Mais ce qui m'a percuté quand j'ai rencontré Georges, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Moi, je sortais fraîchement d'école, donc très formaté par l'environnement scolaire. Et j'avais un peu la tendance à penser que la performance, ça pouvait, d'une entreprise, ou même d'une personne d'ailleurs, ça pouvait rimer avec le côté un peu requin, c'est-à-dire qu'il y a toujours un gagnant, un perdant, quoi. Et quand j'ai rencontré Georges, je sais pas, c'était instantané, il y a eu un peu une lumière dans ma tête où j'ai rencontré quelqu'un qui a forcément, de par sa carrière, a eu des entreprises qui ont eu de la performance et lui-même du succès à titre personnel. Mais je ressentais pas du tout ce côté requin avec un gagnant, un perdant. Je ressentais énormément de bienveillance. Et donc en fait, c'est un peu la question que j'avais. Pour Georges, on se connaît très bien depuis, et puis je l'ai vu à l'œuvre depuis beaucoup de fois. Mais la question que j'avais, c'est que ce type de management où on arrive à allier performance et bienveillance, finalement, comment on le met en place au sein d'une entreprise? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte une entreprise? Est-ce que la bienveillance, c'est un petit peu un compromis par rapport à la performance, ou est-ce qu'au contraire, c'est que c'est gagnant-gagnant?
C'est difficile de répondre. En tout cas, pour moi, je vois très bien ce que tu veux dire et je sais aussi comment c'est venu. Et c'est venu du fait que je n'avais pas tellement confiance en moi et je considérais que les autres avaient de meilleures idées que moi. Mais cela dit, j'avais envie d'être chef d'entreprise, donc ce qui est un peu contradictoire, finalement.
C'est le en même temps.
Ouais, un peu. Mais je me suis rendu compte que ce qui est intéressant, c'est de confronter ces idées. Et on réussit, dans une entreprise, et quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise, à fonctionner de manière extrêmement efficace quand tous, on partage le même objectif et tous se sentent contributeurs dans cet objectif. Et ça, ça a été pour moi une découverte... génial, enfin extrêmement enthousiasmant. Je ne sais pas si le mot qui fait ça fait un peu ringard, enthousiasmant. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Je pensais pas que j'aurais eu envie d'être vraiment chef d'entreprise, de manager des grandes équipes. Voilà, avoir 3-4 collaborateurs, ça me paraissait le maximum à l'époque.
Et combien
finalement,
c'est
je me suis rendu compte que j'adorais ça parce que on partage des choses ensemble et on se fait confiance, et ça c'est super important, et on se respecte, et c'est aussi super important. Et du coup, on est beaucoup plus efficace, créatif et productif. Voilà.
Il y a une limite de personnes que tu peux manager en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme tout court?
Ben, finalement, je me suis rendu compte que non. Que ce soit directement, enfin, manager des gens directement ou indirectement. Il y a des moments, j'avais... Je dirigeais plusieurs entreprises simultanément, parce que tout le monde me disait c'est une hérésie. Bon, ben, je voyais pas tellement pourquoi. Et notamment parce que c'est pas top-down. Quand c'est top-down, c'est difficile de faire plusieurs projets à la fois, mais quand on travaille avec des collaborateurs...
Donc, tu as une véritable délégation de la responsabilité, de la décision, etc.
Voilà, et je me suis toujours considéré, finalement, plus comme un coach que comme un décideur. Décideur, c'est pas mon... C'est pas ce qui me caractérise. Leader, oui, mais pas décideur. Et donc, mon rôle, mon but, c'est d'essayer d'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est juste que c'est dans ma nature. Et finalement, de ce fait, il n'y a pas forcément de limite au nombre de personnes qui doivent être mes interlocuteurs. Par contre, je choisis toujours des gens avec qui la confiance mutuelle est très élevée, sinon ça ne fonctionne pas.
Tu t'es déjà planté en la matière ?
Oui, il y a des gens en qui j'ai cru pouvoir faire confiance et ça s'est avéré faux. Il y a des gens aussi qui ont besoin de quelqu'un de très directif. Je me suis déjà planté avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je me suis planté et après on s'est rattrapé tous les deux. On était en divergence totale. Je vais pas donner trop d'indices
sur la manière de bosser ensemble, mais... ou sur la vision de là où il fallait aller.
Bah, c'est-à-dire que, comme je le dis, je fonctionne plutôt comme un coach qu'autre chose, et la personne avait besoin que je sois plus directif. C'est-à-dire qu'elle me présentait cette personne, on pourrait faire comme ci ou comme ça, et moi j'essayais de comprendre ce qui lui paraissait bien, mais je lui laissais le choix. Et il ne voulait pas choisir. Donc il valait mieux que je dise, bon, voilà, tel que je comprends, c'est plus simple par là, il faut y aller. Voilà, donc...
Et est-ce que du coup, c'est pas un sujet aussi de vision ? Parce que tout à l'heure, Adrien disait, moi je sortais de l'école, j'avais cette image que l'entrepreneur était un requin, qui avait des gagnants, des perdants, et du coup, cette idée que l'entrepreneur doit décider de tout, sur tous les sujets, et qui vient déjà de l'imaginaire collectif qu'on peut avoir parfois à travers les médias grand public, ou à travers ce qu'on projette en...
Oui, je pense que ça vient beaucoup de l'imaginaire, l'éducation. Bon, en France, l'entreprise est un sujet et l'entrepreneur est tabou, de moins en moins.
Le succès, c'est vrai que le succès est souvent jalousé. On a du mal à faire le pont entre le monde de l'école, qui ne parle pas tellement d'économie d'entreprise, et puis ensuite, quand on arrive dans l'entreprise, c'est un autre univers qui a parfois été un peu diabolisé. Ouais.
Et on pense souvent que l'entrepreneur qui a réussi, c'est qu'il a réussi au détriment des autres, qu'il a exploité des salariés. Et franchement, c'est un raisonnement qui ne m'est jamais... Enfin, si l'entreprise, ça avait été ça, je n'aurais jamais été chef d'entreprise.
Et est-ce que chez Veid, vous partagez la valeur aussi avec les entreprises sous des
formes d'outils ? Avec les salariés collaborateurs,
oui. Oui, on essaie de partager les mêmes valeurs. Moi, j'aime bien, en tous les cas, les valeurs du sport. En ce moment, on parle beaucoup de rugby. J'ai d'ailleurs fait du rugby, ça se voit pas forcément, mais voilà. Et j'adore ces valeurs de partage, de collectif, d'enjeu. Oui,
je pense qu'Olivier parlait de la valeur économique.
Alors, du coup, les valeurs, c'est important, effectivement, et ça, ouais. ça ne
ah, pardon.
Détourne pas la question, parce que c'était une bonne question que j'aurais voulu également parler, la culture d'entreprise donc, que tu viens d'aborder. Et là, je parlais aussi du coup de la valeur au sens capitalistique. Est-ce que vous utilisez des outils pour vos collaborateurs, de façon à ce qu'ils aient aussi accès au capital ou à l'intéressement ou à d'autres outils ?
Un peu, mais j'allais dire pas suffisamment, mais c'est aussi une décision culturelle. C'est-à-dire qu'en France, ce n'est pas toujours très bien compris. Je peux donner un exemple dans les boîtes passées où j'avais attribué des stock options. Et puis, quand la valeur a, à un moment donné, diminué, donc c'était très mal compris, ça a été contre-productif. Finalement, beaucoup de collaborateurs ne veulent pas se préoccuper de valeurs d'entreprise ou de valeurs capitalistiques.
Donc tu leur donnerais quelque chose qui ne valorise pas suffisamment
parce que qui ne valorise
pas, comprennent pas forcément l'ensemble.
Oui. Où ils peuvent ne pas comprendre pourquoi ça peut diminuer.
Parce qu'il y a un risque associé.
Ouais. Oui, voilà. Donc finalement, tout le monde n'est pas préparé à ça. Et le plus important, je pense que, enfin pour, j'allais dire 95% des gens, enfin je dis ce chiffre, mais qui, en tout cas la très grosse majorité des gens, c'est d'être bien dans son travail, de faire quelque chose qu'on aime, de donner du sens à ce que l'on fait. D'avoir l'impression d'être utile dans l'entreprise, utile et reconnu. Mais aussi utile parce que ce que fait l'entreprise est quelque chose d'utile. Et ça, chez Veid, c'est quelque chose de très fort quand même. On sécurise 1,2 milliard de boîtes aux lettres. Bon sang, la responsabilité qu'on a, elle est gigantesque. On fait une erreur, ça peut planter 1,2 milliard de boîtes mail. C'est pratiquement un quart des boîtes mail dans le monde. Donc, la responsabilité est extrêmement forte. Et ce sentiment de faire quelque chose d'important qui a du sens est très important chez Veid.
On parlait de sujets tabous. Il y a aussi celui de l'argent et celui du salaire du dirigeant. Pareil, on en parlait un petit peu tout à l'heure autour de la machine à café. Si ça te va, mais je serais curieux qu'on partage aussi avec les auditeurs de 40 nuances de Next ta réflexion, la discussion finalement qu'on a eue ensemble.
Oui, alors... C'est assez compliqué. Je pense qu'il y a assez peu de chefs d'entreprise qui font ça pour l'argent, finalement. Mais quand on voit, et moi, j'ai appris comme ça, j'ai démarré très tôt, un peu naïf, et je me suis rendu compte que finalement, quand on est chef d'entreprise, on prend énormément de responsabilités. On peut en prendre plein la figure, hein, pour rester poli.
Grosse charge mentale.
Ouais. Grosse charge mentale. On peut. J'en ai connu qui sont allés jusqu'à se suicider. Oui, je dis le mot parce qu'ils ont eu des difficultés, parce qu'ils ont tout perdu.
Mais
parce
il peut y avoir en tout cas souvent voilà, des dépressions aussi. Oui,
des dépressions. Ça peut être très très dur d'être chef d'entreprise. Et à un moment donné. On comprend.
Souvent, en plus, tu ne te payes pas au début.
Et en plus, on ne se paye pas beaucoup. Et après, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi je ne me paye pas? Et finalement, je vois malheureusement plusieurs chemins. Il y a des chefs d'entreprise qui font cracher du cash à leur entreprise pour gagner de l'argent, mais qui, en faisant cracher du cash, plombent la croissance de l'entreprise. Et d'autres qui vendent pour s'en séparer, parce qu'à un moment donné, ils ont un peu peur. Il y a ce risque-là de grandir. Mais aussi parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, il y en a marre de se serrer la ceinture. Maintenant, je dis à ma femme depuis des lustres que ça vaut quelque chose.
Mais ça ne se voit pas au quotidien. Ouais, voilà. Ouais.
Moi, je l'ai fait. J'ai gagné de l'argent. J'étais content. Je me suis dit, je vais aller à la pêche. Je ne me suis jamais autant emmerdé que quand je n'avais plus rien à faire. Et je ne rêvais que d'une chose. C'était à nouveau d'avoir une équipe et de partager un projet d'équipe. C'était ça, finalement, ce qui me manquait. Mais donc, oui, ça, c'est un problème. C'est trop tabou, ces problèmes d'argent. Les chefs d'entreprise doivent gagner correctement leur vie en compensation des efforts et des risques qu'ils prennent, même s'ils ne sont pas forcément motivés par ça. Et si la boîte marche bien, les salariés aussi doivent gagner correctement leur vie. Enfin, en tout cas, j'estime que ça doit être une frustration pour personne.
Tu disais que parmi toutes tes aventures entrepreneuriales, dans des discussions notamment avec des fonds, ça avait été un sujet, des fois, de pouvoir s'augmenter ou pas.
Et oui, c'était la culture en France. Ça l'est encore un peu, je pense, dans la plupart des fonds, où on dit le fondateur doit se payer peu. Pourquoi? Puis j'allais dire, j'ai passé l'âge, en tous les cas, de me payer peu. Moi, je ne me paye pas énormément non plus, mais je n'ai pas beaucoup de besoins. Mais voilà, en tout cas, c'est la notion de principe
qui pose question.
Oui, c'est une notion de principe. C'est-à-dire que le fondateur qui est CEO doit se payer peu, mais si à un moment donné, il ne fait plus l'affaire et qu'on le remplace par un CEO qui vient de l'extérieur, on va le payer beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, finalement. On doit être payé pour le travail qu'on...
Et
on sépare bien
général,
les choses, ouais. La partie capitale et la partie salariale. On doit être payé pour le travail qu'on fait et le capital pour les risques qu'on a pris financiers à un moment donné. Il faut séparer les choses.
C'est vrai que c'est un débat qui existe beaucoup au sein des différents cercles d'entrepreneurs. C'est combien on doit payer le fondateur. Il y a pas ce débat vis-à-vis des actionnaires, parce que quand ils rentrent, très souvent, c'est aussi le moment où il y a des fonds qui rentrent. Donc, le moment aussi pour les fondateurs de demander une augmentation à ce moment-là, parce qu'ils ont fait généralement plutôt un sacrifice dans les premières années de l'entreprise. Donc, c'est un lieu de débat. Et puis, il y a aussi cet arbitrage toujours entre le capital, la dilution du capital, parce que quand on fait rentrer des actionnaires, on se dilue. Donc, on donne peut-être le plus essentiel de son patrimoine, en fait, en quelque sorte. Ce espèce d'équilibre entre salaire tout de suite et puis valeur future, qui est un arbitrage qui peut dépendre de l'âge aussi où on en est dans la vie. Si on a déjà vendu une entreprise, qu'on a un peu de patrimoine, on peut largement sacrifier la partie salaire ou réinvestir même de son propre argent dans son entreprise. Enfin, donc il y a plusieurs possibilités.
Et je suis certain aujourd'hui que le plafond de verre, notamment dans notre secteur, dans la cybersécurité, vient un petit peu de là. C'est-à-dire que les entrepreneurs, soit à un moment donné, veulent réaliser, faire du cash et donc vendre leur boîte, soit brident la croissance de leur boîte pour gagner de l'argent.
Et il y aurait peut-être un entre-deux.
Ben finalement, la bonne solution, c'est de lorsqu'on fait une levée de fonds, de prendre une petite partie de ces actions, de se payer suffisamment. Et ça permet d'avoir, ce qui est toujours notre préoccupation chez nous, chez Veil,
l'esprit focus, justement
d'être serein.
Ça doit être prêt de risquer, oui. Et c'est encore voilà. Plus vrai, je pense, que quand on est un jeune entrepreneur. Moi, j'ai eu le cas souvent. Et encore plus maintenant qu'on lance le fonds d'investissement 2050, je me trouve confronté à l'autre côté de la barrière en investissant. Un entrepreneur demande du cash out, au départ, le réflexe des entrepreneurs, enfin souvent des investisseurs français, c'est de se dire ben non, moi je mets de l'argent, c'est pas pour le sortir, c'est pour qu'il entre dans l'entreprise et qu'on investisse dans la technique, dans le marketing, etc. et pas qu'il commence à sortir. Et en fait, le bon raisonnement, selon aussi la maturité et l'âge parfois des fondateurs, c'est de se dire qu'il faut peut-être qu'ils puissent acheter un appartement, ouais. Peut-être qu'ils puissent aussi avoir une vie sereine pour pouvoir avoir le bon état d'esprit, en quelque sorte se dérisquer et peut-être avoir plus d'ambition du coup, et donc créer plus de valeur.
En fait, on augmente l'ambition parce que on n'est plus dans la crainte de
tout perdre,
de 0
ouais,
ou 1.
C'est ça.
On respire et on peut être focus avec cette peur à titre personnel en moins, enfin c'est au niveau du cash ou de la valeur qu'on pourrait avoir perdue. Et donc je pense que finalement on augmente même le niveau de l'ambition parce que en plus quand on a gagné un peu d'argent, souvent on en a envie de plus. Mais bon,
c'est vrai. Voilà. Et puis après ça pose la question de l'équilibre entre avoir une famille, pouvoir se loger convenablement et puis avoir des enfants, etc.
En tous les cas, on peut se concentrer sur l'ambition de la boîte. Parce que sur le côté cash, on a résolu le problème et on peut continuer à s'investir. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je raisonne.
Après, ça dépend aussi du niveau de maturité de l'entreprise au moment où elle lève de fonds. Parce qu'il y a des moments où on lève des fonds de manière un peu défensive, on est moins en position, on est encore en position de risque. Et au contraire, quand c'est très offensif et qu'on parle de série B, de série C sur des montants importants, bon, c'est plus le même paysage. Et là aussi, les investisseurs le comprennent plus facilement.
C'est sûr qu'en seed, ce serait un peu...
ce serait un peu rapide.
Tu évoquais tout à l'heure ta passion pour le rugby. Je te propose de parler de ça, mais pas que, dans cette prochaine rubrique.
S'inspirer. Respirer.
Non, mais ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est on voit que quelqu'un de très équilibré. Tu as aussi traversé des périodes difficiles, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, dans ton cas peut-être encore un peu plus difficile, parce qu'il y a eu des sujets de chaud et de froid, avec des promesses de levée de fonds qui sont finalement été annulées, des attaques juridiques qui ont coûté des millions d'euros. Enfin bon, bref, tu as traversé tout ça. Donc on se dit, d'où vient aussi cette force tranquille dont tu fais preuve, le sourire qu'on voit aussi affiché aujourd'hui, ta capacité à parler de la musique et d'autres choses, et où est-ce que tu trouves ton inspiration?
J'ai toujours relativisé. On vit dans un monde. En France, on a une chance incroyable. Je veux dire, la France est un pays riche. Je dis pas que tout le monde a de la chance, mais je veux dire, quand on regarde,
on est chanceux d'être né ici.
Du monde. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours relativisé. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des cas tellement pires que ce que j'ai pu vivre que voilà, je me suis jamais plaint des attaques qu'on a pu subir ou des difficultés en tant que chef d'entreprise. Voilà.
Stoïcisme.
Oui, quand on voit ce qui se passe pour les Ukrainiens, quand j'ai un copain qui a un cancer, je me dis les difficultés qu'on a traversées professionnellement, c'est anecdotique. Finalement,
beaucoup d'entrepreneurs ont quand même cette capacité effectivement à se tourner vers l'avant, etc. Je me rappelle, j'avais été aussi frappé par Bertrand Fleureau, City Scout, qui a quand même connu des difficultés juridiques, lui, à Londres, hein, avant de devenir entrepreneur. Et il y a eu des moments où il a été rincé, je pense. Il a dû passer par des phases dépressives aussi. Mais ce qui est intéressant dans ton cas en particulier, c'est que t'es pas non plus aussi... Alors, c'est sans jugement de valeur, parce qu'on est... doit être à peu près de la même génération, etc. Mais c'est le fait que t'es pas le petit lapro de 6 semaines. T'as déjà vécu plusieurs vies entrepreneuriales. T'as déjà, je crois, 4 enfants, dont certains qui sont adultes, hein, donc, ou peut-être qui sont tous adultes. Voilà, donc t'as déjà passé certains stades de la vie. Et donc, j'ai l'impression que t'as effectivement parvenu à construire un équilibre qui fait que donc, est-ce qu'il y a un secret derrière ça? Parce que l'équilibre, voilà, élever 4 enfants, avoir lancé plusieurs entreprises, avoir traversé des difficultés et continuer.
J'ai pas de secret, mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours tout relativisé. C'est-à-dire que finalement, rien n'est très important. C'est ce qui peut faire peur d'ailleurs à un investisseur. Parce que comme je relativise toujours, un investisseur...
Il se dit, oh là, il est pas assez dans l'urgence, assez là, etc.
Je sais que je fais passer ce message-là, malgré moi, aux investisseurs. Enfin, je suis perçu comme ça.
C'est intéressant comme analyse de t'auto-analyser comme ça. C'est intéressant de savoir l'image qu'on renvoie, effectivement.
En tous les cas, j'ai toujours relativisé sur la vie, le passage et ce qu'on y fait. Et donc, pour moi, rien n'est vraiment extrêmement important autre que être fier de ce qu'on fait. Rien n'est important, sauf il faut que je sois fier de ce que j'ai fait.
Plus dans le produit que dans la com, du coup.
Dans l'exigence. Oui, mais... Et cette exigence, on peut l'avoir collectivement. Et je pense que finalement, les entrepreneurs, c'est toujours des gens qui ont envie d'une certaine excellence, une exigence d'essayer de faire mieux et qui ont cette excitation dans ce travail vers l'excellence, quoi.
Et justement, Georges, pour te voir opérer, j'ai une question. On en parlait à l'instant, on parlait de la notion du temps où tu peux donner l'impression de pas être pressé sur des sujets où d'autres pensent qu'il faudrait être pressé sur les sujets. Est-ce qu'en fait, par rapport à cet équilibre, à cet environnement qui est nécessaire à la bonne balance dans la vie, est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui prend le temps de construire et maintenir et cultiver en fait ces relations humaines, joie avec tes amis, avec ta famille, avec tes animaux? j'ai des tonnes d'anecdotes, mais peu importe le niveau de la réunion, quand c'est genre je reçois un coup de fil de sa femme ou un texto, il répond. Je pense que c'est des détails qui, sur le long terme, est-ce que c'est pas ça qui maintient cette bonne balance?
Peut-être. En tous les cas.
Merci de t'être mis en mode avion.
Comment ?
Merci de t'être mis en mode avion pendant le tournage.
C'est exceptionnel.
Je ne me suis pas mis en mode avion.
Mince, tu n'étais pas en mode avion. Bon, ça veut dire que
ta épouse
ne lui a pas envoyé de SMS alors.
Oui, c'est vrai que je suis toujours... Enfin, je garde le contact, comme tu dis, parfois en SMS avec... et ça énerve Adrien d'ailleurs, de temps en temps. On est en train de parler d'un sujet sérieux, puis je suis en train de répondre sur la bouffe pour mes chevaux ou autre chose. Mais je sais pas quoi dire par rapport à ça, mais ce qui est vrai, c'est que la seule vraie chose qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine et rien d'autre. Finalement, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la cybersécu ou quoi que ce soit, mais c'est faire, j'aurais pu choisir tout à fait autre chose, mais c'est le fait de faire quelque chose collectivement et avec des gens en qui on a, encore une fois, cette confiance mutuelle, donc établir une relation. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, elle est nécessaire dans une boîte parce que, à un moment donné, il faut quand même bien avancer, donc donner des lignes directrices. Mais finalement, tout le monde est aussi important. Et je n'ai pas de problème à discuter avec quelqu'un au plus bas de l'échelle, quel que soit son âge, ça m'est complètement égal.
Je reviens sur la notion du rôle modèle de l'entrepreneur et du coup sur la culture d'entreprise que vous pouvez, je cherche mon mot, mais en tout cas insuffler, voilà, chez Veid. Le fait, toi, de pouvoir, même dans une réunion très importante, répondre sur un sujet perso, un texto de ta femme, ça veut dire que finalement chacun comprend que il y a de la place aussi pour la gestion de la vie quotidienne dans, dans son temps de travail parfois.
Oui. Et réciproquement. Ouais.
Et inversement,
ouais, bah, tu sais, quand on a créé la filiale américaine et la filiale au Japon, c'était permanent là. Les uns étaient des couches tard et les autres couches tôt. Enfin, les Japonais, enfin voilà, pour dialoguer, c'était tôt le matin et les Américains, c'était tard le soir. Donc,
quand on est en Europe, là, j'ai connu ça. En Europe, on est toujours un peu sacrifié parce qu'on est entre les deux fuseaux horaires. Donc,
ouais, c'est vrai. Donc, j'ai toujours mélangé un peu les deux, oui. Voilà, pour moi, on réagit en fonction de l'instant, de l'importance, de l'urgence. Quand il faut se concentrer, je me concentre. Quand ce n'est pas nécessaire,
Est-ce qu'il y a des règles, une sorte d'hygiène calendaire qui fait que, par exemple, il y a un temps incompressible que tu as... alors là, tes enfants sont plus âgés, mais est-ce qu'il y a eu un temps incompressible que tu as forcément dédié à tes enfants, par exemple, sacraliser le week-end ou à partir d'une certaine heure, ou est-ce que c'est toujours un mélange flou mais que tu arrives à gérer
J'ai jamais vraiment sacralisé le week-end, les vacances ou autre. J'ai toujours travaillé un peu, mais j'ai toujours considéré que ma priorité numéro un, quoi qu'il arrive, serait ma famille. Voilà, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que je dis les problèmes qu'on a eu professionnels.
J'espère que ma femme n'entend pas ça. Il est trop parfait, là.
Non, mais ça ne veut pas dire que je passe beaucoup de temps avec eux, mais voilà. Et finalement, le plus important, bah, c'est de les aimer et de enfin que eux le sachent.
Pour la femme d'Olivier, je ne garderai dispo, que je ne passais pas beaucoup de temps avec eux au montage.
Non, ça va. Non, je me demandais, enfin, j'aurais voulu revenir sur un truc un peu plus perso, mais qui est quand même le rapport à l'argent. Parce que je suis toujours un petit peu étonné, donc je ne sais pas si je peux me permettre de gratter un peu. On aime bien faire un peu de psychologie avec Thomas. Je me demandais si vraiment, quand tu dis oui, je ne fais pas ça pour l'argent, etc. Alors, tu as lâché aussi que tu avais pas mal d'animaux, dont des chevaux et ça. Donc, je pense que tu as un style de vie, tu as des enfants, etc. Alors, je veux bien croire que l'argent ne soit pas la top des priorités. Mais quand même, malgré tout, quand on réfléchit et qu'on discute avec les entrepreneurs, quand même, l'argent, c'est utile parce que c'est aussi le gage de liberté personnelle. Je ne parle pas de l'argent pour son entreprise, je parle de l'argent plus personnel. Hein, on est toujours dans le registre perso. Et je me demande à quel point, du coup, c'est vrai quand tu dis que l'argent n'est pas important. Et ça peut être un sujet qui est aussi tabou chez toi. Je voudrais faire un peu le tour de la question en disant, ben, est-ce qu'il y a des objectifs que tu te fixes qui peuvent être de l'ordre aussi patrimonial. Est-ce que, par exemple, l'idée, ce sera effectivement à un moment donné de revendre l'entreprise? Est-ce que la discussion qu'il peut y avoir autour de ces sujets-là implique forcément quand même à chaque fois à un moment donné des calculs personnels?
Bah, y a forcément des calculs personnels, mais en ce qui me concerne, j'ai pas de besoin d'argent plus que je n'en ai déjà. Mais c'est vrai que... Alors, je pense que en tant qu'entrepreneur, mais vous devez tous les deux le ressentir ça, on est tellement impliqué dans sa boîte qu'à un moment donné, il faut un peu de confort quand même en dehors. Si on n'a pas d'argent, en plus quand on a un coup dur, si on ne peut pas en vacances se payer un hôtel quand même d'un certain niveau, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas toujours... voilà, les meilleures vacances que j'ai passées, c'était avec un sac à dos.
Ouais,
et à
non, pied. Mais, bon, non, mais chacun a sa zone d'un peu de luxe ou de repos.
Voilà, enfin. On a besoin d'un tout petit peu de luxe par moment, ou en tous les cas, de ne pas être gêné par ça. Voilà. Mm. Et moi, c'est mon seul souhait, c'est de pouvoir acheter ce que je veux quand j'ai envie, mais je n'ai pas de désir... enfin, voilà, mais je n'ai pas de besoin énorme. Donc, du fait... la valeur de l'entreprise aujourd'hui ne m'apportera rien de plus que ce que j'ai déjà. Enfin, je considère que l'argent que ça pourrait générer, j'en ai pas besoin.
Il y a Adrien qui me fait des grands signes.
Non, mais c'est un sujet important parce qu'effectivement, et ça m'intéressait d'entendre Adrien, moi, ça m'est arrivé d'être au board ou administrateur ou actionnaire d'une entreprise où les différents actionnaires ne sont pas forcément, enfin les différents fondateurs, pardon, ne sont pas forcément au même niveau dans leur vie. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même niveau patrimonial. Et ça peut parfois, je ne vais pas donner d'exemple,
mais
il peut y avoir une friction qui n'est pas forcément une tension grave, mais qui va se résoudre par le fait que soit l'un va sortir, ou alors il va falloir revendre l'entreprise, alors que l'un des deux avait déjà un patrimoine, il aurait préféré ne pas la revendre, mais l'autre, il a plutôt envie de sortir. Et du coup, les intérêts se désalignent, même s'il n'y a pas de vision différente de la vie. C'est juste que c'est des moments différents de la vie.
Oui, c'est sûr. Bah, Adrien étant beaucoup plus jeune, ses souhaits sont pas forcément les mêmes que les miens.
Mais Adrien, tu voulais réagir, donc c'est une belle perche qui t'est tendue.
Exactement. Oui, parce qu'en fait, je voulais apporter un peu un témoignage de conversation un peu privée qu'on a sur le sujet. Je pense que Georges, là-dessus, t'es extrêmement transparent, justement. C'est-à-dire que Georges, il a des phrases, par exemple, où il va dire, oh, bah, tu sais, moi, j'ai besoin de temps et le reste, c'est l'aventure, quoi. Donc, voilà mon plafond nécessaire et au-delà, il n'y a pas d'exigence particulière. Vaut mieux qu'on favorise la société. Et je trouve que là-dessus, on s'est assez bien trouvé, puisqu'en effet, j'ai un âge différent, mais finalement, je raisonne de la même manière, avec une phase de vie qui est différente. J'ai acheté ma maison il n'y a pas longtemps, mais globalement, le même type de raisonnement qui est, c'est pas de l'avare illimité, il y a besoin de temps pour vivre et le reste qui compte, c'est l'aventure.
Et comme on vous a tous les deux, et c'est pas toujours le cas, à aucun moment il y a une friction sur, bah écoute, moi j'ai pas besoin de plus, mais et effectivement, Olivier le disait très bien, vous avez des âges différents, avec bah du coup Georges qui a peut-être déjà sa maison, son patrimoine installé, et toi qui es en train de le créer ou de l'attendre.
Ben oui, non, c'est pas facile. Enfin, on a aussi d'autres actionnaires qui sont entrés dans la société donc lorsqu'on a fait la reprise en 2013 et un peu après. Et c'est vrai qu'au départ, on avait prévu de... comme ça nous est un petit peu tombé dessus par le décès de Thierry Tarnus, on s'est dit, on va faire grandir un peu la boîte, la packager, la revendre. Enfin, on n'avait pas de projet long terme. On s'était dit, c'est une histoire de... Puisque Thierry n'avait pas eu le temps de la vendre, on va faire ce qu'il avait envie de faire.
Pour aller au bout de cette vente. Ouais.
Pour aller au bout de cette vente. Et puis, donc d'autres actionnaires
donc, auraient
bien aimé...
Pendant quelques années.
D'autres actionnaires auraient bien aimé vendre. Et c'est vrai que finalement, l'aventure s'est prolongée. Et chaque fois qu'on avançait, on disait, mais tout compte fait, on pensait faire 10, mais on peut faire 50, on peut faire 100, on peut faire 1000.
Donc là, ça fait déjà 9 ans, finalement.
Oui, voilà. Et donc, on essaie de trouver un compromis pour que chacun s'y retrouve. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités. Mais c'est vrai que certains auraient bien aimé sortir plus rapidement, en tous les cas. La société n'étant pas à vendre, on va leur offrir des possibilités de sortir pour un groupe d'actionnaires, en tous les cas, qui souhaitent sortir. On fera un réarrangement du capital le temps venu, quoi.
On a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais tes chevaux, et on est dans cette rubrique quand même sur les notions d'inspiration, de comment on se ressource. Je sais pas, j'ai en tête l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et tout ce que ça... Déjà, est-ce que tu parles à tes animaux?
Le cheval, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un animal, compagnon de l'homme, mais c'est aussi un sport. Est-ce que tu montes à cheval?
Oui, enfin ça fait longtemps que j'ai pas monté ma jument. J'avais plusieurs chevaux avant. Il y en a qui sont morts. Donc là j'ai une jument qui est assez âgée et que j'ai pas montée depuis un petit moment. Mais pour moi j'en ai fait un sport pendant un moment. Mais pour moi, le plus important, c'était plus le contact avec l'animal. Et il y a quelque chose d'incroyable avec le cheval. Je pense que beaucoup le disent.
C'est aussi utilisé des fois comme outil de management et de leadership.
Parce qu'en fait, le contact avec le cheval, qui est un contact physique, hein, quand on le touche, le contact physique avec le cheval, il y a quelque chose qui se transmet, une énergie qui s'échange entre le cheval et le cavalier ou qui peut être au sol. C'est très curieux. Si on est très énervé, qu'on touche le cheval devient énervé. Si le cheval est par contre très calme et que nous, on est un peu stressé, le cheval transmet son calme à l'humain. Et alors, je le ressens très, très fort.
Qui a la supériorité? Parce que s'il y a un énervé qui peut énerver l'autre ou un calme qui peut calmer l'autre...
Après, c'est toute la qualité du cavalier de montrer, je veux dire, qui est le chef quand même. Mais avec ma jument, j'ai une relation assez particulière. Elle est plutôt espiègle et au début, quand j'avais acheté, elle essayait d'éjecter son cavalier. Je lui ai dit, ok, tu veux jouer, allons encore plus vite. Et donc, elle essayait d'entraîner aussi, partir au grand galop en faisant des ruades. Voilà. Et donc, je lui ai montré que, OK, tu veux jouer, on va jouer. Et elle n'a pas réussi à me faire tomber.
Tu l'as fatiguée, du coup.
Je ne l'ai pas fatiguée, mais elle s'est dit, tiens, mince,
il faut résiste. Y aller, quoi. Ouais.
Et il y a une forme
de respect.
Respect. Pourtant, c'est un fichu caractère. Je ne vais pas trop donner de détails, mais je me suis amusé à un moment donné à faire une balade complète en pleine nuit, à minuit, sous la pleine lune, sans les rênes. Et pour autant, c'était un cheval. Tous ceux qui montaient
risqué,
dessus,
c'était risqué, ça.
C'est pas possible, on n'arrive pas à la tenir.
Attends, comment tu drives le truc sans
En fait, simplement, dès que je me penchais en arrière, elle était d'autant plus à l'écoute du coup. Et c'est là où je dis le contact.
Peut-être qu'elle aussi, elle vous laisse sa liberté sans les rênes. Votre côté entrepreneurial à tous les deux.
Elle s'est dit, on fait ce qu'on veut et donc on est en communion. On n'est plus en lutte, en fight, on est en communion. Mais c'était très drôle parce que du coup, quand je me penchais légèrement en arrière, elle s'arrêtait. Quand je me penchais légèrement en avant, elle repartait. Si je me penchais plus fort, elle partait au grand trot puis au grand galop. Et du coup, je lui ai appris à tourner, mais
avec le poids du corps,
en appuyant légèrement à droite ou à gauche, ce qui fait qu'elle était devenue dangereuse d'ailleurs, parce que mon fils un jour l'a montée dans les champs et il dit je comprends pas, elle fait des demi-tours sur elle-même d'un coup, ben je dis oui t'as dû appuyer un peu trop à droite, donc du coup elle a tourné complètement à droite. Et du coup il se fait éjecter sur
donc il y a plus voilà. Que plus que toi qui peux la monter.
Oui, c'est vrai, d'une certaine manière, mais c'est très drôle comme un cheval peut être finalement à l'écoute. Enfin, c'est le côté à la fois docile du cheval, mais enfin, il cherche aussi à être dominant. En tous les cas, il y a une relation assez particulière qui est intéressante, qui peut aussi s'appliquer. Enfin, je pense que quand on est cavalier, on comprend aussi mieux les interactions entre humains. Ça aide aussi, je pense. À donner une certaine sensibilité qui se fait parfois sans les mots. Voilà.
C'est un animal que je connais pas ou très peu et je trouve ça super intéressant. Enfin, on pourrait en parler des heures. J'ai mis mes questions et j'ai l'impression qu'il y avait aussi beaucoup d'anecdotes qui en disent beaucoup de nos relations humaines.
Moi, j'ai une femme qui est cavalière et on a aussi un cheval dans le sud, donc elle monte tous les jours. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est assez hermétique. Moi, je monte vraiment de manière amatrice ou amateur, mais c'est vrai que quand un cavalier passionné en parle, effectivement, on rentre dans un univers à part qu'il faut avoir vécu. Mais cette expérience de monter, effectivement, sans les rênes, souvent les cavaliers parlent des aides, des différentes aides, les jambes, le poids du corps, etc. Et donc, effectivement. Les meilleurs dont tu fais partie arrivent effectivement à entrer dans une symbiose. Dans le sens, tu arrives à une subtilité. Alors que le jeu de cavalier qui est pas subtil, en général, il tire les rênes et que là, il massacre la bouche du cheval avant de.
Ouais, c'était une expérience. Ouais. C'était un test et j'ai découvert que finalement, quand on laisse le cheval libre, eh bien, il obéit bien plus. Et c'est dans ce sens que je trouve que le rapport avec l'humain est intéressant. C'est qu'en fait, en laissant quelqu'un de libre, du moment qu'on se donne tous les deux le moyen de se comprendre.
Ça rejoint bien ce que tu disais sur le style de management que tu prônes, hein, qui n'est pas forcément un management type autoritaire ou qui décide à la place des autres, effectivement.
Oui, voilà.
Donner envie de participer à un projet.
On a une private joke à Veille là-dessus sur le style de management de Georges. On dit qu'il fait le management de la gravité.
Ah, de la gravité au sens du poids.
On essaie de faire l'image.
Quand il se penche sur la gauche.
Globalement, il a une idée pas forcément confortée, donc c'est pour ça que l'entourage est important, mais il a une idée de où est-ce qu'il veut aller. Et puis, il ne veut pas être directif, ni dominant. Et donc, il fait en sorte, on ne verra pas la vidéo, mais imaginez une boule qui tombe, elle doit tomber dans un entonnoir à un endroit précis, et puis il met en sorte des planches en diagonale pour que la boule aille bien à l'endroit qui se passe. Mais ce n'est pas Georges qui va dire à la boule d'aller à cet endroit. C'est en discutant avec les gens, jusqu'à nous laisser avoir des discussions très passionnelles entre nous. Et Georges s'assure qu'à un moment donné, ça est bien là où il faut, sans qu'il ait eu à le diriger, quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est le management par la
Et des
gravité.
Fois je m'amuse, je me fais un jeu et je le dis pas. J'ai une idée précise de ce que j'ai envie de faire et d'amener la personne.
La boule a tombé dans tel endroit, ouais.
Et je lui fais que poser des questions et ce que je veux c'est qu'à la fin il me dise je pense que tout compte fait j'ai une idée, je pense que c'est ça. Et j'essaie de l'amener par différentes questions. Et en fait, ça marche super bien.
C'est ce que Socrate appelait la maïeutique. Le fait de poser les bonnes questions pour faire accoucher l'autre.
Je ne connaissais pas ça. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien.
Nous, on a d'autres questions. Pas forcément de maïotique, mais toujours sur cette notion de, à l'image du cheval, est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles tu vas t'inspirer, peut-être sur ta vie entrepreneuriale? On a beaucoup parlé du style de management que t'es peut-être pas allé chercher à travers ton cheval, mais est-ce que t'as, à travers d'autres expériences personnelles, mieux saisi l'entrepreneur que tu allais être ou que tu étais déjà?
Bah, on parlait un peu du rugby tout à l'heure. La première leçon du rugby, c'est le collectif. Et c'est, je sais plus, je crois que c'est un grand rugbyman anglais, Wilkinson, je pense, qui disait l'ambition d'un rugbyman, c'est d'offrir à son coéquipier la possibilité de réaliser son ambition. Et c'est vrai que, enfin, cet apprentissage-là, je l'ai trouvé très intéressant. C'est de ne jamais se mettre en valeur et de chercher le succès collectif. Mais voilà, je dirais, j'ai commencé, enfin, j'ai fait du rugby étant très jeune. Et après, j'ai toujours raisonné comme ça. J'ai pas cherché à me dire, je vais faire du management qui est ressemblable, pas du tout.
Non, mais voilà. C'est des choses qui se diffusent et qui restent.
Voilà.
Sans transition, je te propose de passer à la carte blanche de Georges.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Waouh.
Le micro est à toi. L'éventail des possibilités est infini, mais tu as fait un choix.
Oui, alors j'avais choisi de parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Je ne sais pas du coup si ça va être très intéressant, mais... J'ai la conviction, enfin, je suis pas le seul à dire ça, qu'on avance de manière, comment dire, un peu par habitude dans la consommation, etc. Et j'ai une espèce de conviction au sujet de la voiture. Je suis extrêmement... j'observe tout ça et je me dis, mais pourquoi on a besoin de 2 tonnes pour déplacer ses fesses, quel que soit l'endroit où on va?
Quand il suffit de se pencher un peu en avant.
Oui, sur un cheval.
Qui fait une demi-tonne.
Et si j'avais encore beaucoup de temps d'entrepreneur devant moi et que j'étais pas déjà engagé sur différents sujets de la cybersécurité qui me passionne, j'aurais adoré, en tous les cas, essayer de trouver une solution à ça. Ça peut être dans la voiture autonome pour éviter que chacun ait la sienne et donc on siffle la voiture qui vient nous transporter. Mais voilà, ou inventer quelque chose entre le vélo le plus léger possible et la voiture la plus lourde possible. Il y a certainement quelque chose à faire entre les deux. Mais je suis convaincu de toute façon qu'on avance vers ça et que il y a énormément de choses à faire, mais il faut renoncer. Et je sais qu'Adrien aime beaucoup les belles voitures, mais voilà, aujourd'hui la voiture c'est un signe extérieur de richesse et je trouve ça finalement complètement déconnecté et voire stupide et dangereux, quoi. Voilà, en tous les cas, c'est un sujet qui me préoccupe et je pense qu'il y a une tendance mais qui est trop lente pour changer ça. Il faut apprendre à se déplacer moins. Et je pense que l'informatique, le télétravail peut être utile et se déplacer de manière plus légère aussi, et ce qui entretient le corps, si on fait un peu de sport, etc.
Est-ce que la question qu'il y a derrière, c'est se déplacer moins ou c'est se déplacer mieux dans cette réflexion du coup que je crois comprendre derrière? C'est un sujet que la planète se meurt à petit feu et d'un petit feu qui va être quand même de plus en plus rapidement. Je fais juste une parenthèse pour renvoyer les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Tanguy Touffu de Descartes Underwriting qui assure contre les catastrophes climatiques et ben, voilà, c'était juste passionnant comme échange et on il y a de quoi flipper un peu.
Oui, alors moi je suis un optimiste de nature, donc je flippe pas, je me dis bon voilà, les choses évoluent, il faut faire avec les évolutions, il faut essayer d'être acteur aussi
bien sûr.
Tant que faire se peut des évolutions qui nous paraissent sensées. Et je pense que ça, c'est un des éléments majeurs en tous les cas de l'évolution. Si on imagine, je sais pas, une ville sans voiture, c'est juste génial. Et je pense que, ceci étant dit, on y va. Moi, je suis plutôt à l'automne de ma vie que par rapport à d'autres qui sont plus jeunes, mais je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis ou qui ont le permis mais qui n'ont pas de voiture et qui n'en veulent surtout pas. Donc, je pense qu'il y a... Il y a une prise de conscience de manière générale écolo, mais pas seulement écolo, aussi sur dans la façon de vivre.
Posséder aussi.
Oui, ouais. Posséder moins et également vivre plus naturellement. Voilà, tiens, j'étais en visite récemment, on avait une réunion pour, sur la cybersécurité à la garde républicaine, ici à Paris, donc la garde montée. À cheval. Et le gendarme nous expliquait que quand on voit deux gendarmes dans une voiture, on ne leur adresse pas la parole, évidemment, et on a des pensées plutôt négatives. Quand on voit deux gendarmes à cheval, on lui adresse le bonjour, voire on pose des questions et le rapport est humanisé. Enfin, là, je refais le lien avec les chevaux, mais oui. Simplement, le simple fait de ne pas être... Enfin, la voiture, en fait, ça déshumanise. Ça pollue, ça nous écarte.
Ça énerve, parfois.
Ça énerve, ça, c'est vrai. Ça stresse.
Je vois l'heure qui file. J'avais plein de sujets avec Olivier qu'on souhaitait aborder, mais on ne se quittera pas, quoi qu'il arrive, sans discuter de ton choix Sista. Je te propose d'en discuter après ce jingle.
Oui, la rubrique Sista, c'est le choix par les entrepreneurs du Next 40, il y a peu de femmes dans le Next 40, de mettre aussi en avant.
Même zéro cette année, pour le coup.
Dans la nouvelle promotion, effectivement. Ouais. Bon, donc il y a de plus en plus de femmes dans les startups. Il y a aussi des femmes entrepreneurs qui ne sont pas encore dans le Next 40, mais qui méritent largement un coup de projecteur. Et donc, on a du coup un podcast qui est 40 nuances de Sista, dédié à ces femmes entrepreneurs. Et donc, elles sont choisies par nos invités. Donc, est-ce qu'il y en a une à laquelle tu penses en particulier ? Est-ce que tu auras aussi une question à lui adresser ?
J'en connais peu personnellement. J'avais pensé à Isabelle Cochet de Engie, que j'avais rencontrée et vraiment j'ai admiré ce qu'elle a fait. Et il y a une autre femme que je ne connais pas personnellement, mais que je suis un peu sur LinkedIn. J'ai déjà échangé sur LinkedIn, mais j'ai trouvé remarquable ce qu'elle a fait. C'est Nathalie Bala qui a pris la direction de La Redoute et qui a racheté La Redoute pour un euro symbolique. La Redoute qui allait dans le mur, franchement, c'était une société qui était donnée pour morte en 2010. Je pense que ça a été très, très, très dur. C'est une société qui faisait des pertes abyssales.
Complètement transformée, oui.
Qui avait encore des catalogues papier à l'époque.
Oui, voilà, ce qui paraissait complètement d'un autre siècle. Donc, il fallait transformer tout ça. Je pense que créer une entreprise, c'est difficile. En transformer une aussi ancienne que La Redoute, je crois que La Redoute, ça prend ses origines au 19e siècle. Enfin, c'est extrêmement vieux. Je ne sais plus la date.
Oui, non, mais c'est ancien.
C'est vraiment une société très, très, très ancienne.
C'était dans le groupe PPR, à l'époque, Pinot, Printemps, Redoute. Donc, c'était un des fleurons. Et effectivement, tout le monde pensait à l'époque que ce serait peut-être le Amazon du futur, puisqu'ils avaient tous les savoir-faire. On s'est dit, base de données clients, catalogue produits, programme de fidélisation, enfin, beaucoup de savoir-faire. Et pour autant, non, il s'agit d'une vraie entreprise étonnante, effectivement, par Nathalie Bala et son associé de retournement.
Ouais. Je te vois réagir aussi, Olivier. Du coup, je vous propose même à tous les deux de lui poser une question et que Solène ou moi, si je remplace encore Solène sur 40 nuances de Sista à ce moment-là, lui poserons en votre nom.
En tous les cas, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de raison que les femmes ne soient pas chefs d'entreprise. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus, d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre ça. Il n'y a pas de différence de capacité, différence de sensibilité, oui, probablement, dans l'éducation, très certainement. Mais je pense que le frein, finalement, il est social. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que, Nathalie, vous avez ressenti des freins au fait que vous soyez... est-ce que ça vous a freiné à la fois en tant que chef d'entreprise dans les équipes, mais aussi par rapport à la confiance qu'ont pu avoir les banquiers dans l'entreprise? Est-ce que le fait d'être une femme a été une difficulté? Ou au contraire, est-ce que ça a facilité les choses parce qu'il fallait changer la redoute et finalement changer de direction et de style de direction et peut-être incarné par une femme pouvait mieux incarner ce changement, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que ça a été facilitateur ou est-ce qu'au contraire, ça a été une difficulté?
Et tu veux que tu me proposes de poser une question à Nathalie? Ouais. Écoute-moi, Nathalie, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qu'on se connaît un petit peu, pas de manière très amicale encore, mais on se croit souvent. Ben, on a tous les deux été dans le secteur du e-commerce. Et elle sait le respect que je lui porte. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment elle se projette du coup dans l'avenir de la Redoute, puisque effectivement, c'est une vieille marque qu'elle a réussi à transformer, à retourner, à créer des nouveaux produits, à s'inscrire dans l'air du temps, à redevenir à la mode, etc. Et je me demande, du coup, à titre personnel, comment elle se reprojette, du coup, dans l'avenir, après avoir réussi cette opération. Est-ce que c'est une aventure patrimoniale qui dure toute la vie, ou est-ce que c'est une entreprise qu'on a pris, dont on se sent responsable et qu'on va revendre, ou introduire en bourse, ou faire autre chose? Ça m'intéresse de savoir ça.
Eh bien, réponse dans quelques semaines à ce micro. Merci Adrien d'avoir été avec nous tout le long de cet échange pour questionner notre invité et ton associé Georges Letivier. Merci à toi, Georges. C'est un plaisir.
Merci Thomas, merci Olivier.
Merci d'avoir Adrien. Été là, merci Adrien aussi.
Merci.
C'était un moment assez puissant et fort, hein, de parler à la fois de cybersécurité et des aventures et mes aventures d'entrepreneuriat. Je suis assez agréablement surpris par cette résilience dont vous faites preuve tous les deux.
On avait garanti zéro bullshit, je pense que c'était le cas.
J'espère, c'était notre souhait.
À très bientôt, merci à tous.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.